Voilà, donc j'espère qu'on va aboutir à une bonne soirée, malgré le nombre réduit d'intervenants.
On va bientôt.
Presque moins de moitié. Hein. Alors, je voulais juste présenter en deux mots, comme je fais d'habitude, une petite intro sur cette péricope. Alors, je peux pas dire qu'elle soit très longue, mais longue. Relativement.
Tu veux parler un peu plus fort, s'il te plaît,
Pour toi ou...
pour tout le monde,
Ah bon.
peut-être, mais en tout cas pour moi.
Donc, en intro, on peut dire qu'après avoir affermi l'église d'Antioche, où ils étaient de retour après Jérusalem, Paul souhaite partir en tournée avec Barnabas dans les églises qu'ils ont implantées lors de leur premier voyage d'évangélisation à Chypre et en Asie mineure. Néanmoins, comme nous l'avons lu tout à l'heure, un différend va les opposer, ce qui conduira finalement l'apôtre Paul jusqu'en Europe, c'est ce qu'on verra. Bonsoir. Bonne nuit.
Il est tout rouge, il faut mettre un petit truc. C'est plus rouge que tout à l'heure. Son œil.
Ouais.
Au revoir. Tiens, tiens, tu dis au revoir comme ça.
Bye bye. C'est ce qu'on verra, hein, ce voyage jusqu'en Europe. Ça commence d'ailleurs avec le texte 15-36 et ça va aller jusqu'à 18-22 pour nous parler de ce long périple, bien loin de Jérusalem, bien loin de l'église d'envoi d'Antioche, et aussi de la région natale de Paul, la Cilicie. Et lui, il ne sait pas encore, à l'heure où nous lisons le texte, hein, il ne sait pas encore qu'il part pour un très long voyage, puisque il n'a aucune indication, il n'a rien programmé d'autre que la tournée des églises qui sont déjà implantées. Alors pour la petite histoire, pour ceux que ça intéresse, ça sera quand même un voyage de 5600 kilomètres et qui va durer environ 3 ans. Donc, il s'embarque vers l'inconnu, mais nous, on le sait déjà. Voilà. Et le texte donc que tu as lu tout à l'heure, Brigitte, commence par, alors ça dépend des versions, mais disons après un certain temps, peu importe la traduction, littéralement en grec, c'est après quelques jours, mais c'est une expression en grec qui est assez large, qui ne veut pas dire grand-chose, et dont on ne peut pas vraiment déterminer la durée. Mais comme je l'avais expliqué la fois dernière et la fois d'avant, le temps qu'ils vont prendre à affermir l'église d'Antioche après l'espèce de vague judaïsante, va quand même leur demander un peu de temps, puis on voit qu'ils n'ont pas fait qu'affermir, c'est ce qu'on avait vu la fois passée, ils développent de nouvelles conversions dans l'église d'Antioche. Donc voilà, disons qu'un certain laps de temps s'écoule avant que Paul ne propose à Barnabas de retourner visiter les frères. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire une tournée dans les églises implantées, donc en suivant quasiment les traces de leur premier voyage, du moment qu'ils revoyaient tout le monde. Voilà, donc ça c'était le projet de départ. Une des questions, je crois, portait sur le motif du désaccord. Est-ce que le désaccord, c'est par rapport au projet ou c'est par rapport
Personne
à une
ne
personne? Oui,
personne.
d'accord. Donc ça, on y reviendra dans un moment. Donc on peut dire que sur le fond, ils étaient d'accord sur le fait de partir ensemble, retourner voir les églises, etc. On observe une petite différence avec le premier voyage, donc le premier voyage missionnaire, c'est que dans le premier voyage missionnaire, on nous raconte que celui qui est à l'initiative, c'est le Saint-Esprit. Ici, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est bel et bien Paul qui prend la main et qui pense qu'il faut aller visiter ces églises. Et vous savez pourquoi il veut le faire? Est-ce que ça transparaît dans nos versions? Oui, mais je pense que le texte dit quelque chose.
Pour voir comment il va se
Voilà. Donc, selon les traductions.
Voilà. Comment ils ont évolué.
Voilà. Alors, c'est une expression en grec, pos ekousin, qui veut dire, alors, très littéralement, s'ils peuvent avoir la force d'être, sous-entendu, d'être chrétien, d'être croyant. Donc, on voit qu'en grec, il y a l'idée d'une sorte d'évaluation de la, ce qu'on pourrait qualifier, la résistance des églises. Est-ce qu'elles ont résisté aux attaques judaïsantes? Est-ce qu'elles ont résisté aux païens qui sont pas d'accord avec le développement de l'évangile, voire à des autorités, éventuellement, c'est le cas dans certaines églises. Nous verrons où ils en sont, pourrait se traduire de différentes manières. Hein.
Ben oui, comment ils tiennent.
Voilà, comment ils tiennent, c'est ce que le grec suggère. Hein. Comment ils ont résisté, comment ils vont, comment ils sont, comment ils s'en sortent. Voilà, c'est toutes des traductions qu'on pourrait faire en français, puisque vous savez qu'il n'existe pas une bonne traduction, mais des traductions, et que malheureusement, ben, quand on traduit, il faut choisir. Là, il faut, voilà. C'est pour ça que nos traductions en français divergent sensiblement les unes des autres, mais elles disent finalement la même chose. Hein. Donc l'idée de ce voyage, c'est finalement d'évaluer l'état de résistance des églises implantées. Et selon cette évaluation, et là je te rejoins Brigitte, selon ce que donne l'évaluation, donner un enseignement approprié, correctif, complémentaire, etc. Je pense que ce que Paul vise, notamment pour les églises de Syrie, de Cilicie, c'est de vérifier que l'attaque des judaïsants, donc la demande de circoncision obligatoire, n'est pas laissée de traces et n'est pas un petit peu abîmée les églises. Ceci dit, grâce à la décision de Jérusalem, Paul n'a plus peur, il n'a plus peur d'attaquer de front ceux qui voudraient développer des idées judaïsantes, il n'a pas d'inquiétude, il peut aller de l'avant, donc cette deuxième, si vous voulez, ce voyage évaluatif, il a en grande partie ce but. Voilà.
Voir où en sont. Il faut transmettre la lettre.
Et donc profiter pour la même occasion de transmettre ce qu'on pourrait presque appeler un décret.
Oui.
Voilà que toutes les églises, païens et l'église mère de Jérusalem, ont décidé ensemble que c'était ça la politique qu'on allait mener. Voilà. Donc ce n'est plus une demande, c'est quelque chose d'inscrit, de durable, qu'on peut appliquer. Et donc on découvre au verset 37 que lorsqu'il s'agit de décider avec qui on va partir, ça se corse un tout petit peu. Donc nous, dans la taube, on a Barnabas voulait emmener aussi avec eux Jean appelé Marc. Alors est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est qui ce Jean appelé Marc ou Jean-Marc? Ou Jean ou Marc.
Marc, ouais. Marc, on l'a vu.
On l'a déjà rencontré, l'a vu, oui. Puisque, voilà,
il n'est pas resté avec lui. C'est le cousin.
C'est le cousin de Barnabas. C'est son cousin. Son cousin qui est jérusalémite.
Ouais.
Qui, comme vous l'avez vu quand on en a parlé il y a fort longtemps, puisque c'était au chapitre 12. 12-25, 13-13, on parle de ce fameux Jean-Marc. On avait vu à l'époque qu'il était d'une famille sacerdotale, qui était dans la prêtrise, il habitait les beaux quartiers tout proches du temple, et sa mère, qui s'appelle Marie, avait ou dirigeait, enfin peu importe, recevait une église de maison assez importante. L'église de maison dans laquelle Pierre, en sortant de prison miraculeusement, avait rejoint, puisqu'il savait qu'on priait pour lui dans cette maison-là. Voilà, donc il s'agit bien de ce Barnabas-là, et je pense que Jean-Marc, oui, le propos de Barnabas est tout à fait légitime, non seulement parce que c'est son cousin, mais parce que quelque part, il croit en cette personne, il croit aux capacités de cette personne, même si, lors du premier voyage, on avait vu notre Jean-Marc quitter le groupe alors qu'ils avaient déjà traversé Chypre, qu'ils étaient arrivés en Pamphylie.
Et pourquoi ils avaient quitté
Ah ben, rappelez-vous que on n'a pas vraiment de motif, mais en tout cas, il leur fait faux bon. Et c'est d'ailleurs ce que Paul va argumenter ici, hein, dans ce qui va créer la divergence entre Barnabas et Paul. Alors, on se rend compte que Paul, verset 38, n'était pas d'avis de reprendre comme compagnon un homme qui les avait quittés en Pamphylie et n'avait donc pas partagé leur travail. Donc, il y a deux motifs au refus de Paul. Le premier, c'est que le gars s'est barré avant même d'avoir assumé toute la mission. Et le deuxième argument, c'est que puisqu'il n'a pas implanté les églises avec nous, il n'y a aucune raison qu'il nous accompagne pour voir où elles en sont. Voilà, c'est assez logique, hein, quelque part. Oui, mais Silas, il est choisi après coup, à cause de la divergence. Voilà. Donc pour l'instant, on en est là. La question, finalement, alors là, je suis d'ailleurs assez interrogatif par rapport à nos versions françaises, qui toutes laissent planer le mot désaccord, donc quelque chose d'assez fort, voire même de conflit dans certaines versions, entre Barnabas et Paul. Et je pense que le grec ne dit pas cela. La question, ce n'est pas qu'il y ait accord ou pas accord avec Barnabas. Le grec dit plutôt que Paul jugeait bon. Paul a estimé qu'il n'était pas bon de prendre Marc ou Jean comme compagnons dans ce deuxième voyage. Tout simplement parce qu'il n'a pas participé au développement du premier. Voilà, en gros c'est ça. Donc on se rend compte que Paul ne dit pas « je ne suis pas d'accord », il ne dit pas « il n'en est pas question », il dit, il estime que ce ne serait pas bon pour le travail à réaliser qui est une évaluation des églises et un affermissement complémentaire, de prendre Marc avec eux. Comme s'il disait à Barnabas, c'est trop tôt pour nous adjoindre cet homme-là. Il doit peut-être encore parfaire son parcours, son engagement, son ministère. Et donc Paul ne dit pas quelque chose d'extrêmement dur à ce moment-là. Pour lui, l'œuvre missionnaire de Jean, appelé Marc, s'est interrompue à l'arrivée en Pamphylie, c'est-à-dire avant que tout ne devienne plus dur, plus difficile et dangereux. Donc est-ce qu'on va lui demander de partir avec nous dans un milieu dont on sait qu'il y a de l'hostilité, notamment de la part des Juifs, envers le travail missionnaire de Paul et Barnabas? Voilà, donc je pense que c'est légitime, la vie de Paul est légitime. Finalement, si vous voulez, c'est un peu comme s'il disait à Barnabas, ton cousin Marc, il n'a connu que les bons moments à Chypre. Là, ça a été du gâteau, quelque part, mais là, on ne va pas vers du gâteau. Donc, moi, je soutiens, en tant que théologien, qu'il n'y a pas de désaccord entre eux, mais juste deux opinions différentes, et toutes les deux légitimes. Les projets auraient pu être tout à fait valables. Ce n'est donc pas sur le projet de tournée qu'il y a divergence, mais sur le choix d'un collaborateur, ou disons du meilleur collaborateur possible. Or il se trouve que dans l'esprit de Paul, ce n'est pas ce fameux Jean-Marc. Et c'est la première fois dans l'histoire que Paul et Barnabas ne sont pas d'accord sur un projet. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Barnabas, on sait qu'il est plus conciliant que son ami Paul, que lui est prêt à donner une seconde chance à Marc, déjà. Il connaît la valeur de son cousin, comme j'ai dit tout à l'heure, mais lui, Paul, est beaucoup plus fonceur et radical. Et puis, lui, il en a pris plein la poire, hein, si je puis dire, ne serait-ce que la lapidation à Lystre, oui, etc. Donc, il sait de quoi il parle aussi, et il préfère une personne fiable, ayant fait ses preuves, pour partir dans ce travail-là. Et voilà qu'on ne sait pas pourquoi ni comment, dans le verset qui suit, 39a, alors le grec est très intéressant parce que le grec dit « il advint ». Voilà. On ne sait pas pourquoi, mais il advint quelque chose. Alors la Top pourtant traduit leur désaccord s'aggrava, comme s'il y avait déjà eu une guéguerre avant, alors que le grec, si je me souviens bien, il advint une exaspération D'ailleurs, c'est le mot paroxysme qui est utilisé en grec. Hein. Paroxysmos, effectivement.
Oui.
Donc, il advint une exaspération sans que le texte nous dise pourquoi ni comment. Mais voilà, c'est le résultat de leur divergence, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus entre eux. Alors, moi j'insiste, hein, je souligne que le grec n'insiste pas sur la notion de désaccord ou de conflit, mais quelque chose s'est passé entre eux dans la relation qui fait que. Et on peut s'interroger, de quelle exaspération s'agit-il ? Et moi je propose que nous nous mettions en tête que l'exaspération, c'est celle d'une divergence qui n'a pas pu être résolue. Ce qui les énerve un peu tous les deux, c'est qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Parce que c'est des amis.
Oui.
Non seulement c'est des frères, mais c'est des amis proches. Barnabas, rappelez-vous, c'est un peu le papa spirituel de Paul.
Oui.
C'est lui qui l'a formé, embarqué, présenté aux apôtres, etc., etc. Donc il y a une très grande proximité humaine et relationnelle. Mais donc voilà, la divergence fait que, malgré la solide amitié, chacun des protagonistes est resté sur son opinion. Barnabas voulant que Jean-Marc les accompagne, et Paul disant « c'est trop tôt, il n'est pas prêt, il nous faut quelqu'un de fiable pour partir ». Barnabas ne cède pas quant au choix de son cousin, et Paul, lui, ne discerne pas en Marc quelqu'un de fiable pour ce type de mission, et en soi, je le répète, les deux attitudes sont légitimes. On ne peut pas dire l'un a tort, l'autre a raison. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a exaspération, parce qu'ils savent tous les deux qu'il n'y a pas de raison d'être en conflit. Mais l'irritation, je dirais, elle est partagée. Elle est donc commune, d'après le grec, celle de ne pas avoir réussi à se mettre d'accord au sujet de Marc et d'une collaboration avec lui. Et en fait, le seul point d'accord entre eux, c'est qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas la même vision ou la même analyse quant au choix d'un collaborateur. Ils ne sont donc pas fâchés ou brouillés. Quelque part, ils vivent quelque chose qui est difficile pour eux deux. Alors, c'est pour la raison pour laquelle je dis, plutôt que de parler de désaccord, il faudrait peut-être parler de dissentiment. Il existe bel et bien une différence de jugement au sujet du choix de Marc qui conduit à une situation insoluble et peut-être à quelques heurts verbaux, mais ce n'est pas certain. En tout cas, le texte ne nous laisse pas entendre. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, les deux amis ne trouvent comme solution que la séparation. Alors si on ne peut pas partir ensemble avec les collaborateurs qu'on pense, partons chacun de notre côté. Donc ce n'est pas du dépit, si vous voulez. C'est vraiment une décision. On préfère partir chacun de notre côté et continuer à bosser, continuer à œuvrer pour Dieu, plutôt que... voilà. Et donc je dis, ils sont séparés, mais pas ennemis. Ils sont séparés, mais pas fâchés l'un envers l'autre. Position finalement bien sage pour résoudre cette divergence de vue que la séparation. D'ailleurs, vous savez, dans la Bible, il en existe plein d'autres séparations. J'en veux vous citer qu'une, mais on sait l'histoire d'Abraham et Lot, par exemple. Est-ce que ça a fait d'eux des ennemis ? Ben non. D'après le texte de la Genèse, ce n'est pas le cas. Donc ça existe.
Et on voit dans Timothée, en fait, quand il parle de Marc,
oui.
Les compagnons de travail. Donc
oui.
Voilà, il y a quelque chose qui...
On va le revoir dans un moment. Hein. Voilà, donc la suite du verset 39, donc 39b jusqu'au verset 40, nous dit que Barnabas a pris Marc avec lui, s'embarque pour Chypre, tandis que Paul, lui, s'adjoint Silas et s'en va, remis par les frères, dit le texte, à la grâce de Dieu. Alors, peut-être un premier constat sur ce verset.
Paul et Silas, ils sont remis par les frères.
Alors, apparemment, le grec semble dire que c'est que Paul.
C'est que Paul, oui.
Mais peut-être Paul, parce que...
C'est parti avec...
Je ne sais pas quelle en est la raison.
Après avoir été...
Une mission bien déterminée. Il voulait aller d'église en église et donc...
Vérifier où en sont les églises. Et on sait que Barnabas, qui était originaire de Chypre, retourne donc vers Chypre, qui est son territoire finalement, et qui se semblent d'accord tous les deux là-dessus. Lui, il va consolider les églises à Chypre, tandis que Paul va partir dans l'autre sens. Alors rappelez-vous la la pérégrination, la première, c'était passer par Chypre, aller en Asie mineure et revenir exactement plus ou moins par le même chemin, mais sans passer par Chypre. Alors que là, Barnabas part à Chypre et Paul va monter vers le nord par la voie terrestre. Mais alors, peut-être un premier constat qu'on peut faire, c'est finalement que la providence divine permet ce dissentiment. Ou cet incident, si on veut pas parler de conflit, hein, et que Dieu s'empare de ce dissentiment pour développer finalement plus rapidement encore l'ouverture au monde païen. Donc c'est comme si Dieu se frottait les mains, et se dit ben, que Barnabas aille à Chypre et que l'autre continue, il ne sait pas vers quoi il va, mais il va y aller. Tu vois, il y a quelque chose un peu dans ce goût-là. Évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, nous on sait que Paul va aller jusqu'en Europe.
Excusez-moi.
Non. Juste une petite observation. À partir d'ici, on sait que Barnabas part à Chypre, mais on n'entendra plus jamais parler de lui dans les Actes. Voilà. Donc, sans doute est-il resté sur Chypre un bon moment, mais on le retrouvera plus tard dans des lettres pastorales. Quand Paul écrit ses lettres, il va citer Barnabas de temps en temps. Voilà. Donc, lui, c'est ça. Et Paul et Silas s'embarquent. Alors, on avait beaucoup parlé de Silas la fois dernière, donc je ne veux pas trop y revenir, mais disons que Paul a choisi le meilleur collaborateur possible, celui qu'il avait rencontré à Jérusalem, celui qui les a accompagnés à Antioche, celui qui a enseigné à Antioche. Il a donc pu juger sur pièce qui était ce bonhomme. Alors, rappelez-vous que j'avais dit aussi que Silas, dans les épîtres pastorales, s'appelle Sylvain. Son nom romain, si vous voulez. Silas étant le nom hébraïque, la version hébraïque de son nom. Donc, ne vous étonnez pas que Paul ne parle jamais de Silas, mais parle plutôt d'un Sylvain, qui est le même bonhomme, en fait. Alors, deuxièmement, donc ça c'était le premier constat, deuxièmement, comme le disait Lynn tout à l'heure, on apprend que Paul est remis par les frères d'Antioche à la grâce du Seigneur. Et je crois que cette déclaration de Luc souligne à l'évidence qu'il n'y a pas eu de conflit, car s'il y en avait eu un, et qu'il avait pu être identifié par les gens d'Antioche, il serait intervenu. Or ici, ils accordent largement leur bénédiction à Paul pour partir de son côté avec un nouveau collaborateur. Ils n'ont pas besoin d'arbitrer quelque chose, ils ne se sont pas mêlés du problème, ils n'ont pas cherché à pacifier un rapport qui n'est pas en guerre, vous voyez ce que je veux dire ? Donc je pense de nouveau, ça c'est un point supplémentaire pour nous dire qu'il n'y avait pas problème de personnes entre eux, mais un problème quant au choix d'un collaborateur et qu'ils n'ont pas pu faire avec. Donc ici, les frères, ils se contentent de confier Paul au Seigneur pour ce nouveau projet de voyage avec Silas. Troisièmement, dans d'autres écrits du Nouveau Testament, on apprend que Paul est resté lié à Barnabas, parlant de lui généralement avec affection, malgré cet épisode qui s'est déroulé entre eux, de pas trouver la bonne solution pour repartir ensemble. Et Paul le cite dans 1 Corinthiens 9:6, par exemple, ou dans l'Épître aux Galates, au deuxième chapitre, dans plusieurs versets, il parle de Barnabas. Et donc, s'il en parle dans ses lettres pastorales, ce n'est pas pour dénoncer qui est Barnabas, le mauvais qui n'a pas voulu partir avec moi, qui a voulu absolument embarquer Jean, donc il en parle positivement. Et enfin, quatrièmement, contrairement aux apparences, ou contrairement, je dirais, à la trahison de nos traductions, qui laisse entendre qu'il y a un big problème, de désaccord entre les deux, quatrièmement, Marc lui-même va devenir à terme un collaborateur de l'apôtre Paul, sans Barnabas. Ça, c'est quand même assez dingue quand on y pense, quoi. Donc, deviendra un collaborateur. Alors là, il y a plusieurs références possibles, en tout cas trois. Dans l'Épître aux Colossiens, tout d'abord, au quatrième chapitre, dans les versets 10 à 11, Paul parle...
Colossiens.
Colossiens, oui. Colossiens 4, 10 à 11, où Paul va parler de son collaborateur, finalement. Mm-hmm. On le retrouve dans Philémon. Alors là, rappelez-vous, Philémon, c'est un seul tenant, donc il n'y a que des versets, il n'y a pas de chapitre. Philémon, au verset 24. Et enfin, le dernier texte est dans 2 Timothée, au chapitre 4 et au verset 11. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a donc collaboré avec Paul. Sans l'aide de Barnabas ou sans le soutien ou le mentorat de Barnabas, mais qu'on découvre aussi dans le Nouveau Testament qu'il a été un collaborateur de Pierre. Donc il a aussi travaillé avec Pierre, et on lit ça dans 1 Pierre, justement, la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 13, où on découvre qu'il est le secrétaire particulier de Pierre. C'est lui qui rédige les lettres de Pierre. Voilà, donc ça nous donne l'idée quand même qu'il n'y avait donc pas un problème d'incapacité, de mauvaise capacité à vivre engagé pour le Seigneur, etc., mais que Paul lui-même va reconnaître en Marc quelqu'un de valeur, qui sera lui-même reconnu par Pierre aussi comme un gars fiable avec qui on peut travailler. Donc voilà, je pense que ça nous aide aussi à bien comprendre qu'il n'y a pas de désaccord et de conflit ouvert entre nos deux missionnaires du début. J'espère vous avoir convaincu. Le parti pris que j'ai pris, mais je pense que le texte nous aide quand même à le faire. Et ensuite, ben, verset 41, ben, on nous dit, voilà, Paul est parti et il parcourt la Syrie, la Cilicie, a fermé les églises, etc. Et c'est finalement grâce à ce verset que l'on sait que Paul et Silas sont partis par la route terrestre. Parce que sinon, on ne saurait pas, on pourrait imaginer qu'ils ont pris un bateau, etc. Non, non, ils se dirigent vers le nord, le long de la côte, d'abord en Syrie. Bon, ça veut bien dire, comme je l'ai dit la fois passée, qu'il y avait déjà des églises implantées en Syrie, autres qu'à Antioche, et pareil en Cilicie. Alors, Brigitte n'étant pas là la fois dernière, je rouvre la petite parenthèse. J'ai fait une petite démonstration la fois passée pour dire que finalement, Paul a largement eu le temps d'implanter des églises en Syrie et en Cilicie au tout début de son ministère qui n'est pas rapporté par le livre des Actes. Voilà. Mais si tu écoutes l'enregistrement sonore, tu verras que j'avais développé un peu plus que ça. Mais je pense que c'est important de le souligner. Tout comme il a apparemment œuvré un peu vers l'Arabie au tout début, juste après sa conversion à Damas, quoi. Alors...
Il
ne
choisit pas le meilleur chemin.
Enfin, mais en même temps, il choisit. Alors, je ne dis pas que c'est une question de choix du chemin, mais je pense qu'il assume la mission que la lettre de Jérusalem leur a imposée. Parce qu'en fait, la lettre, vous l'avez rappelé, elle n'est pas écrite pour Antioche. Elle est écrite en partie pour Antioche, puisque c'est là qu'est né le problème. Mais elle est écrite aussi pour les églises de Syrie et de Cilicie. C'est ce que le texte dit. Donc, c'est tout à fait naturellement que Paul et Silas s'embarquent vers le nord pour accomplir cette mission. Voilà.
La Cilicie, c'est où ?
C'est là où est né Paul. Donc, le sud, je sais pas de bêtises, le sud-est de l'Asie mineure, c'est le sud-est de la Turquie actuelle.
C'est marqué ici.
Alors, si tu vois, donc ça touche la Syrie en fait, tu vois, c'est le premier territoire après la Syrie. Et tout au long de ce voyage, ben, on apprend que Paul se consacre à l'affermissement des églises qui existent. Il est probable que cela consistait d'une part à communiquer la lettre de Jérusalem, le décret si vous voulez, et d'autre part d'en expliquer les directives, comme ils l'ont fait à Antioche. Silas l'a fait aussi. Donc, ils expliquent aux églises pourquoi cette décision a été prise, comment et comment l'appliquer. Et notamment auprès des incirconcis convertis, puisque c'est eux que ça concerne essentiellement. Mais ils le font aussi envers les juifs, hein, messianiques. Et finalement, cette remontée vers le nord, et c'est le chapitre 16 qui commence avec ça, dans la remontée vers le nord et après la Cilicie, pour la première fois, rappelez-vous, j'avais dit ça il y a très longtemps, quand ils ont fait le premier voyage missionnaire, ils se sont arrêtés à Derbe, oui. Et ils n'ont pas franchi les montagnes pour rejoindre la Cilicie. Mais cette fois-ci, en prenant vers le nord, et qu'ils ne sont pas venus en bateau, ils sont bien obligés de traverser la chaîne montagneuse pour atterrir à Derbe, qui était la dernière ville dans laquelle Paul et Barnabas avaient travaillé. Donc, chemin inverse, ça atterrit à Derbe, en territoire connu de Paul, évidemment. C'est la ville où une église a été implantée par Paul et Barnabas, on a trouvé ça au chapitre 14, les versets 20-21, par exemple. Et de là, après avoir affermi Derbe, ils se rendront à Lystre, c'est-à-dire là où il avait été lapidé et laissé pour mort. Comme quoi, le gars, il n'a pas trop peur, hein, l'air de rien. Et alors là, on entre dans une autre histoire. Tout d'un coup, à Lystre, on rencontre un personnage. Quel est-il, ce personnage ?
Timothée.
Alors,
le fameux Timothée.
Celui qui craint Dieu, qui a une mère juive et un père grec.
Alors, c'est craint de Dieu, on peut traduire de ah, deux manières différentes. Honoré par Dieu, ou le craignant Dieu, le peu craignant importe. Dieu. Hein, celui qui craint l'Éternel. Hein. Et qu'est-ce qu'on apprend de lui déjà dans le verset 1b ?
Que sa maman est juive,
ouais.
Et que son père est grec.
Ok. Mais elle est quoi, juive-juive ou juive... Oui, donc juive messianique apparemment, hein, d'après le texte, devenue croyante, on a dans la tome, enfin, je ne sais pas ce qu'il y a dans les autres, voilà, et dont le père était grec. Attention, il ne s'agit pas de la nationalité. Le texte dit en grec « Hélène », dans le sens de culture hellénique, si vous voulez. Et en même temps, si je dis qu'il est hélène, je dis qu'il est d'origine païenne, par conséquent. Sinon, j'aurais dit qu'il était juif, d'accord ? Donc, on sait que ce Timothée... Est-ce que vous savez d'autres choses sur Timothée dans vos découvertes ou...
Oh, pas tout. Qu'il est jeune. Il a
alors, jeune
plus ou moins 20 ans, non ?
Alors, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est un adulte. Oh. Alors, il faut savoir que chez les juifs, on considérait comme jeune des gens entre la trentaine, on va dire 25-30 ans, et 45-50 ans. Ça, c'était être jeune, ça. Après, tu tombais du jour au lendemain dans la vieillardise. Non, je rigole, mais... Voilà, donc jeune ne veut pas nécessairement dire quelqu'un jeune d'âge, mais quelqu'un de suffisamment jeune que pour être encore dynamique et travailler, etc., etc. Mais enfin, bon, on s'en fiche. Donc, on sait quoi qu'il était disciple... Hein, c'est bien ça qu'on nous dit dans le verset 1. Disciple sous-entendu du Messie, de la voie messianique. Sans doute lié au premier voyage missionnaire de Paul, donc un converti vraisemblablement. Et on sait aussi, de par le verset qu'on a sous les yeux, qu'il avait deux cultures, juive et païenne. Juive par sa mère, hellénique par son père. Et quand on dit hélène, dans le texte ici, je cherchais mes lunettes. Quand on dit hélène, on veut non seulement dire que c'est quelqu'un qui parle grec, que c'est quelqu'un d'origine païenne, mais ça veut aussi dire que puisqu'on est en Lycaonie, la région c'est ça, la Lycaonie c'est un territoire dont les habitants sont considérés comme peu développés et médiocres. Donc dire de quelqu'un qu'il est hélène, c'est dire qu'il fait partie de la bourgeoisie. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a une culture, c'est quelqu'un qui est éduqué, etc. etc. Donc c'est intéressant de savoir que c'est donc pas n'importe quelle famille, celle de Timothée. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend d'autre ? Il semble que sa maman n'était pas une juive, enfin avant sa conversion, de stricte observance, parce que épouser un grec qui apparemment, alors peut-être était-il un craignant Dieu, mais le texte ne nous le dit pas.
Oui,
c'est ça, je pense que Luc l'aurait dit, mais il ne nous le dit pas. Certains commentateurs penchent évidemment pour dire, oui, si elle a épousé, c'est qu'il était quand même respectueux et sans doute un craignant Dieu. Moi, je n'en vois pas la preuve dans le texte. je vois qu'elle est mariée avec un Hélène, voilà, ce qui expliquerait alors valablement la non-circoncision du fils. Peut-être qu'il s'est opposé. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, dans les mentalités, quand tu avais une biculture, celui qui épouse quelqu'un, enfin une femme qui épouse un homme, adopte nécessairement, ou se soumet, entre guillemets, à ce que son bonhomme décide. Donc si son bonhomme lui dit « Non, moi je veux pas qu'il soit circoncis, je veux pas qu'il soit considéré comme juif, je veux pas qu'on puisse dire qu'il est juif, toi t'es juif, c'est bien, mais lui non. » Donc on pense que la non-circoncision aurait dépendu du père qui ne voulait pas de ce rite pour son gamin.
Alors, c'est pas les parents qui décidaient encore de mariage.
Alors, il faut savoir que plus tu t'éloignes de Jérusalem, plus les Juifs adoptent des choses moins carrées qu'à Jérusalem. À Jérusalem, ça aurait été impossible. Ouais, pourquoi? Parce que marier quelqu'un de complètement étranger à sa culture et à sa religion, c'était impossible parce que considéré comme un péché. Voilà. Rappelez-vous qu'un païen n'a pas le droit de mettre un pied dans le temple. Il ne peut pas franchir l'espace du temple. Donc, pourquoi? Non pas parce qu'il est païen, mais parce qu'il est impur. C'est toujours le même problème. Hein. Donc, un mariage mixte de ce type serait considéré à Jérusalem comme totalement improbable et blasphématoire, scandaleux. Là, on sait que dans la diaspora, entre juifs, on s'arrange. Mais comme on ne sait pas grand-chose de l'histoire de cette famille, tout ce qu'on sait, c'est que la maman de la mère de Timothée, donc, alors, pour dire les choses, la mère de Timothée s'appelle Eunice, Eunike en grec, d'accord ? Et on dit, on ne parle que de la mère d'Eunice, qui est Loïs. Toutes les deux juives, et apparemment, toutes les deux pratiquantes, parce qu'on apprend, par exemple, dans la lettre de Timothée au chapitre 1, verset 5, que ce sont ces deux femmes qui se sont converties à la voie messianique, en commençant par la grand-mère, puis la mère, donc d'abord Loïs. Pour la petite histoire, Loïs, si on traduit, ça veut dire « meilleur ». Et la mère Eunice, c'est « bonne victoire, Eunice hein. ». C'est pas mal, quand même. Bien. Mais on sait aussi que notre Timothée a reçu dès son enfance, dit Paul, une éducation religieuse, puisqu'il connaît bien la Torah. Et ça, c'est toujours dans l'Épître à Timothée, chapitre 3, verset 15, que l'on apprend donc que la grand-mère et la mère ont donné un héritage scripturaire, hein, ils connaissent l'écriture. Ce qui veut donc dire qu'elles étaient quand même pratiquantes, elles n'étaient pas juives éloignées, absolument rebelles. Hein, okay. Mais par contre, on ne parle pas des hommes. Donc on suppose que le papa de Timothée est déjà mort. D'ailleurs, tous les verbes sont au passé quand on parle de lui dans ce texte-là. Et on ne parle absolument pas du mari de Loïs. Donc on peut supposer que le mariage, et ça répond peut-être à ta question, Anne-Catherine, a été arrangé par nécessité. Parce qu'elle était veuve, sans doute, Loïs, besoin d'être soutenue. Et il se trouve qu'il y a un riche grec qui est amoureux de la pauvre Nice, hein, tu vois. Et ça match, la maman dit oui, et puis la fille épouse... le fameux gars, mais le gars ne veut pas que son gamin soit identifié comme juif. Bon, peu importe. Ça vous va jusque-là? C'est des petits détails, mais ça a son importance pour la suite du texte, sinon on ne comprend pas l'histoire de la circoncision inopinée pratiquée par Paul. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur lui? Eh bien, je pense qu'on peut... Alors là, il faut un peu creuser, évidemment. On peut aussi terminer en disant que c'est ce Timothée-là qui va accompagner l'apôtre Paul dans cette mission auprès des païens. Donc, tout d'un coup, Timothée va se trouver parachuté avec Silas et Paul vers l'Europe, alors qu'il n'en savait rien, lui non plus, avant que Paul n'atterrisse. Et même là, ils ne savent toujours pas, les uns et les autres, qu'ils vont aller en Europe. C'est-à-dire qu'il va vraiment les accompagner longuement sur cette route-là. Et puis, on sait aussi, dans le reste du Nouveau Testament, qu'il va devenir son disciple préféré. Donc le fameux Timothée va devenir le disciple bien-aimé de Paul, dont il parlera toujours dans ses lettres en termes élogieux, et avec un côté un peu paternel. Peut-être justement paternel parce qu'il n'a plus de père, ce Timothée. Alors je vous invite à lire quand même, ça vaut la peine.
Je fais la même chose que Barnabas pour lui, quoi.
Oui, un peu dans ce sens-là, un vrai papa spirituel, mais en même temps très affectueux. Donc je vous invite à lire ensemble un beau texte dans Philippiens, justement, dans Philippiens 2, où Paul parle de Timothée. Donc, si quelqu'un veut le lire, c'est Philippiens 2, les versets 19 à 24. Hein, c'est pas très long, mais c'est terriblement intéressant. Donc, Philippiens 2, 19 à 24. Enfin, je n'espère ne pas m'être trompé de référence.
On peut lire un
quatrième titre. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'y vais bientôt.
Donc il a une relation presque filiale, hein, quelque part, et pas dans le sens d'autorité, mais dans le sens d'affection, de protection, etc., etc. On peut aussi se poser la question de quelle épreuve parle-t-il ici, hein, dans Philippiens. Ben peut-être justement celle de la circoncision. Car s'il y a bien une chose difficile, c'est d'être circoncis adulte. Ça crée une certaine souffrance. Et puis peut-être qu'il y a eu des épreuves qui ont suivi dans leur voyage vers l'Europe, hein, le tour d'Europe, là. Ok, mais c'était bien de lire ce texte pour nous donner un petit peu un aperçu des choses. Alors, on sait quoi d'autre au verset 2 sur Timothée ? Ok, donc plutôt quelqu'un de très bonne réputation, et ça va même loin, puisqu'on nous dit autant à Lystre qu'à Iconium, dans les églises sous-entendu, hein. Donc dans les communautés messianiques de Lystre et d'Iconium. Pour la petite histoire, en cette courte phrase, Luc nous apprend que ce fameux disciple Timothée jouit d'une excellente réputation et qu'il était déjà très actif et bien connu dans ces deux églises, villes pourtant distantes, si vous vous souvenez de ce qu'on a déjà étudié, de 40 kilomètres. Donc c'est pas juste deux bourgades qui se touchent et dans lesquelles on est copain-copain. Ça nous montre aussi que ces églises entretenaient des relations très fraternelles, de collaboration. Donc on se passe les meilleurs éléments d'une communauté à l'autre. Un sabbat, je vais lire la Torah à Lystre, et le sabbat suivant, je serai acteur à Iconium, par exemple. Hein, voilà. C'est pour vous dire que ce gars est déjà bien connu, bien repéré par les gens sur place, et donc Paul n'a aucun mal à identifier les capacités de ce gars qui est déjà à l'œuvre. C'est un personnage charismatique, bien qu'il soit jeune, hein, donc je rejoins un peu ton idée. Ceci dit, on apprend par Paul que c'est plutôt un gars réservé, c'est pas Paul, c'est le contraire de Paul à la limite, tu vois. Un gars réservé, voire timide, et ça on l'apprend dans 1 Corinthiens 16 au verset 10, ou dans 2 Timothée aussi, au chapitre 1, les versets 7 et 8 qui nous décrit un peu le bonhomme. Et puis, on sait aussi que c'est quelqu'un qui est souffreteux, qui est un peu maladif, ce qui était un peu le cas de Paul. Hein. Paul avait des problèmes aussi. Mais on apprend que notre ami Timothée souffre de problèmes stomacaux. Donc il a, et c'est d'ailleurs ce fameux texte, vous savez, on lui conseille, enfin, Paul lui conseille de boire quand même un peu de vin tous les jours, ça lui fera le plus grand bien. D'accord. Bon, voilà, comme ça, on était. Il faut savoir qu'à l'époque, la vinasse n'avait pas le degré d'alcool que nous avons aujourd'hui. Donc c'était un peu du jus de raisin amélioré, si vous voulez. Pas de quoi vraiment lui faire mal, effectivement. Voilà, donc voilà, c'est un peu tout le personnage de Timothée. Donc le côté réservé et peut-être un peu maladif, en tout cas d'aspect physique, fait que, apparemment, c'est la raison pour laquelle Paul conseille toujours aux églises de respecter Timothée. Parce que Timothée est quelqu'un de valeur. Vous avez l'impression que c'est un pauvre type, vous avez l'impression qu'il a, il est fragile, mais attention, c'est un super enseignant. Donc respectez-le, accueillez-le, etc. Il insiste toujours dans ses épîtres là-dessus. Voilà, je crois qu'on a bien brossé le tableau de Timothée. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Je ne sais pas qui l'heure il est.
Ça va.
On est encore dans les temps. Bon. Alors, c'est le verset 3 qui m'intéresse particulièrement. Donc, ça va très vite, hein, le verset 3. Paul désire l'emmener avec lui, première partie de la phrase. Il le prie, clac. Il le circoncit à cause des Juifs qui se trouvaient dans ses parages. Ils savaient tous, sous-entendu les Juifs, en effet, que son père était grec. Voilà. Alors, comment expliquer la contradiction entre « Je suis porteur de la lettre de Jérusalem » qui dit « On n'est plus obligé de circoncire personne », enfin, parmi les païens. Et comment se fait-il qu'alors, là, tout d'un coup, parce qu'il y a des Juifs autour d'eux...
Et que son père est grec.
Ouais.
Ben, moi, j'ai pas compris.
Essayons, essayez. C'est pas difficile, honnêtement. Pourquoi, justement, Luc prend soin de dire qu'il est grec ? Fait que son père est grec.
C'est comme si lui était un croyant aussi. Ah, il était non-juif.
On pourrait imaginer que les Juifs peuvent supposer que s'il a un père grec, il n'est pas circoncis.
Oui.
Alors qu'il se comporte comme un Juif qui parle à des Juifs et qui va aller avec Paul enseigner des Juifs. Ça pose un petit problème, celui que tu as soulevé tout à l'heure, Brigitte. Est-il juif ? Est-il pur ? A-t-il le droit de participer à des activités communes avec des juifs ? Tant que c'est des juifs messianiques, ça ne pose pas de problème. Mais dès que tu t'adresses dans l'évangélisation à des juifs, ça devient un problème. Donc à Lystre et à Iconium, il est connu comme juif messianique et reconnu comme tel, tout en n'étant pas circoncis, ça n'a pas l'air d'embêter les uns et les autres. Mais par contre, dès que tu es dans le champ de l'évangélisation, dès que tu t'adresses à des juifs non messianiques, ça va devenir un problème. Et Paul pressent bien. Alors pourquoi Paul le pressent, d'après vous ? Il y a de l'expérience, Paul. L'expérience de Lystre, entre autres, et d'Iconium, il y est déjà passé. Donc il sait que les juifs plutôt judaïsants non messianiques sont féroces et qu'ils ne vont pas leur faire de cadeaux s'il s'embarque avec un demi-juif qui est ni vraiment païen, ni vraiment juif. Enfin, il n'y a pas pire pour un juif que le mélange.
Moi, je vais être un peu... Mais il s'allait quand même parler d'utilité circoncis.
Ah, bah, écoute... Aussi. Pas nécessairement.
Il savait.
Mais ça pourrait...
Il savait que le fait de son père était grec, qu'il n'avait pas été circoncis.
Ah, mais justement. Mais son père est toujours grec, même après qu'il ait été circoncis, tu vois.
Donc oui, c'est ça. Mais...
Comment il savait qu'il était circoncis, juste sur les mondes ?
Qu'il n'était pas circoncis.
Non, mais qu'après qu'il l'a été.
Après, ouais. Parce que voilà.
Ben, c'est-à-dire que ce que Paul craint, c'est pas tant qu'on vérifie dans la chair s'il est circoncis, c'est qu'on les accuse. Et qu'auquel cas, si on les accuse qu'il n'est pas circoncis, ça va devenir un problème. Et ça risque même de dégénérer en contrôle, justement, intempestif, sanitaire, si tu veux, pour vérifier la chose. Et dans le modèle rabbinique, c'est possible, ça. Il n'y a rien qui interdit la vérification d'une circoncision. Donc, comprendre l'attitude de Paul, hein, on doit partir du présupposé qu'il ne s'agit pas d'une contradiction. Donc il n'est pas en train de faire le contraire de ce que la lettre de Jérusalem dit. Donc il y a une autre raison, et on va essayer de bien la déterminer. Parce que le texte dit, rappelez-vous très clairement, à cause des Juifs. Alors, ce « à cause des Juifs », c'est très important. Ces Juifs-là sont le public privilégié de l'apôtre dans ses tournées missionnaires. Et à cause d'eux, il ne peut pas prendre le risque d'être dénoncé, comme on l'a fait à Jérusalem à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, Paul est à Jérusalem, et il se trimballe avec des frères dans la foi, qui sont juifs messianiques, et on l'accuse de faire entrer dans le temple des païens, parce qu'on pensait que ces hommes n'étaient pas circoncis, alors qu'ils l'étaient. Donc ça montre bien que la problématique existe. Donc ici, vu qu'il veut s'adresser prioritairement à des juifs non messianiques, il pense qu'il vaut mieux guérir tout de suite, donc prévenir, si vous voulez, que de devoir faire face à l'hostilité des Juifs à cause de cela. Mais je continue mon raisonnement. Alors, on part de Jérusalem, rappelez-vous, avec cette fameuse histoire de lettres. On sait qu'à Jérusalem, Paul a milité pour qu'on n'impose pas la circoncision à qui ? Aux païens. Pas aux Juifs. D'accord ? Puisqu'elle n'est pas nécessaire aux païens pour le salut. Et c'est maintenant un acquis, en fait. Or, d'après Galates 2, que je vous invite à lire en parallèle avec les Actes d'ailleurs, d'après Galates 2, dans les versets 3 à 5, on sait qu'à Jérusalem, Paul s'était farouchement opposé à la circoncision de son disciple, qui s'appelle Tite, un grec. Malgré la demande d'insistance, dit Paul, de faux frères infiltrés, donc des juifs qui ne sont pas vraiment messianiques, infiltrés dans la communauté messianique. Et il ne voulait pas donner gain de cause à ces judaïsants. Donc il a toujours refusé que Tite soit circoncis. Mais de par le contexte maintenant ici, on sait que la circoncision de Timothée, qui a été voulue et exécutée apparemment par Paul, est bien différente. En effet, aux yeux de tout juif, dans l'environnement de Lystre et d'Iconium et les parages, aux yeux de tout juif, Timothée, fils d'une juive, est nécessairement juif selon les règles rabbiniques en vigueur. Donc, on peut avoir, dans ce public juif, si vous voulez, on peut avoir deux visions. Soit c'est le fils du païen, soit c'est le fils de la juive. Si c'est le fils de la juive, si c'est comme ça que je le vois, j'estime qu'il est circoncis. Et s'il ne l'est pas, c'est grave. Mais si c'est le fils du païen, alors à la limite, on s'en fout, mais alors il n'a pas le droit de nous parler, il n'a pas le droit de manger avec nous, il n'a pas le droit d'être avec nous. Voilà. Vous voyez où on va dans cette histoire. Donc, ça, c'était pas le cas de Tite, qui lui était d'origine païenne. Paul, qui souhaite évangéliser principalement les juifs de cette région, ou son fameux disciple Timothée connu, et il ne souhaite pas qu'il soit choqué s'il découvrait que le juif Timothée n'est en réalité pas circoncis, ce dont d'ailleurs il pouvait se douter, puisque le père est grec, dit le texte. Cela ferait scandale et du coup, l'annonce de l'évangile à ce public serait discréditée, voire anéantie. Et peut-être même qu'on s'en prendrait à eux physiquement, puisqu'on l'a déjà fait. Alors la circoncision de Timothée, évidemment je suppose que Timothée était d'accord, hein. La circoncision de Timothée, la circoncision de Timothée est donc de l'ordre du compromis, pour ne pas choquer inutilement les Juifs. C'est donc une sorte de geste d'apaisement, si vous voulez. Et observons que, dans d'autres circonstances, l'apôtre pratiquera aussi la politique du compromis pour ne pas choquer inutilement. Par exemple, les viandes sacrifiées aux idoles, sur cette thématique-là en particulier. La consommation de viande sacrifiée aux idoles, on trouve ça dans Romains, dans 1 Corinthiens. On sait aussi que d'autres compromis existent dans l'Écriture, déjà dans la Torah, dans le texte que Paul, Silas, Timothée, etc. lisent couramment. On sait par exemple, je vais en citer un ou deux, ben Abraham présentait sa femme comme sa sœur. Pas chouette, chouette. David, alors le grand David, hein, servant comme soldat, je ne sais pas si vous avez déjà imaginé ça, dans les rangs ennemis des Philistins. Et ça, on l'apprend par Samuel, 1 Samuel 27. On découvre dans les versets 5 à 12 que David a été mercenaire pour les Philistins. Ça, c'est incroyable, quoi. Et enfin, on a Élisée qui autorise Naaman, vous vous souvenez de ce bon général syrien, autorisant Naaman à s'incliner devant les idoles de son roi. Si ça, c'est pas du compromis, je sais pas ce que c'est, quoi, quelque part. Et ça, on trouve ça dans Deux Rois, au 5e chapitre. Donc, dans l'Écriture, déjà, on trouve qu'à certains moments, les hommes, pourtant montrés sur un piédestal par les textes, ont eu besoin de compromis. Et donc le compromis fait partie aussi de la mentalité juive. Voilà pourquoi je parle de compromis. Car le compromis, finalement, pour Paul, c'est permettre le vivre ensemble, harmonieux, entre juifs messianiques, sous-entendu anciens juifs juifs, et païens convertis. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle Timothée doit passer par la circoncision. Et pour Paul, l'unité ou la paix, si vous voulez, de l'Église, c'est plus important que la liberté individuelle. Donc, il y a des moments où il faut faire des choix. Et donc, je conclus, il n'y a donc pas ici une attitude inconséquente de la part de Paul. Il n'y a pas non plus de contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il fait ce qu'il juge bon en termes de compromis pour pouvoir aller jusqu'au bout de leur projet, mais dans d'autres cas, il va s'opposer complètement à la circoncision. Et on le verra d'ailleurs dans d'autres épîtres de Paul. Voilà. Alors après, on a le verset 4 qui surgit. On nous dit que dans les villes où il passait, Paul et Silas transmettaient les décisions, etc., etc. Alors, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de Lystre et d'Iconium. Si on nous parle des villes dans lesquelles ils passaient, c'est qu'il y a des villes après Lystre et l'Iconium dans lesquelles ils sont passés. Et on sait que le tracé de leur voyage vers l'Asie mineure va frôler tout le sud de la Galatie, si vous voulez. Donc on pense que les villes où ils passent, c'est justement dans le sud de la Galatie, où ils prennent le temps de transmettre les décisions de la lettre de Jérusalem pour les communautés messianiques et les païens. C'est d'ailleurs ce verset la preuve que Paul n'avait pas changé d'avis au sujet de la circoncision. Donc, circoncire Timothée, ce n'est pas contraire à ce que la lettre de Jérusalem raconte, si vous voulez, puisqu'il va là défendre cette lettre bec et ongle dans les églises où il passe. Mais c'est vrai quand ça concerne les incirconcis, païens d'origine, d'accord ? Cela souligne aussi que Paul et son équipe demeurent fidèles, loyaux, par rapport aux décisions prises à Jérusalem. Et d'ailleurs, le texte nous dit que cette fameuse équipe demande à tous, juifs et non-juifs, de se conformer au décret de Jérusalem. Dans quel but ? Pourquoi, c'est précis, ils ne font pas jurer les gens qu'ils vont observer les... Hein ? Le but recherché est très clair à mes yeux. Favoriser, faciliter, encourager la cohabitation entre juifs messianiques circoncis et païens convertis incirconcis, puisque c'est là le nœud du problème, si vous voulez. Et tout ça au sein d'une même communauté fraternelle, l'Église, ou bien on pourrait dire même au sein d'un même peuple, le peuple que Dieu a rassemblé au temps messianique, conformément aux annonces prophétiques des prophètes de l'Ancien, du Premier Testament, si vous voulez. Et voilà que le texte conclut. Alors, je ne sais pas si je l'avais demandé dans le questionnaire. Oui, qu'est-ce qu'indique en fait ce verset 5, qu'on peut considérer comme un sommaire conclusif, hein, c'est ce que je disais. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce verset ?
Les églises se fortifient,
oui,
dans la foi et augmentent en nombre.
Donc, les églises, sous-entendu, les églises qu'ils ont déjà enseignées en Syrie, en Cilicie, à Lystre, à Iconium, à Derbe, dans lequel ils sont passés en premier, et puis sur le chemin maintenant en route vers la Galatie, que là, les églises sont affermies, et peut-être sont-elles affermies non pas seulement par l'enseignement paulinien, mais elles sont affermies par le décret lui-même et les explications sur ce décret qui pacifient finalement les rapports, mais aussi peut-être par la résistance qu'elles ont développée face aux attaques locales alors que Paul était absent, quand Paul n'était plus en voyage chez eux. Bon, ça n'a pas dû être triste non plus, hein, quelque part. Donc, les églises sont devenues fortes. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début des Actes, dans plusieurs chapitres, alors je vais citer chapitre 2, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 11, chaque fois qu'on parle du succès de l'Évangile, dans cette première partie du livre des Actes, on nous dit qu'il y avait augmentation du nombre de croyants. C'est comme si on comptabilisait les individus, si vous voulez. Mais on ne parle jamais des églises. C'est toujours la multitude, la foule, les croyants, et on les dénombre, si vous voulez. Donc, la première partie du livre des Actes mentionne plutôt la croissance numérique individu par individu, alors qu'ici, dans ce sommaire, Luc nous indique non seulement l'affermissement qualitatif des églises, mais il met en évidence l'augmentation du nombre même des églises. C'est-à-dire maintenant, on ne compte plus en croyants, mais on compte en nombre d'églises. Le succès, et notamment, peut-être qu'on le compte parce qu'on est en territoire païen. Donc ça joue. On gagne du terrain, finalement. Voilà. Donc c'est une petite conclusion de Luc sur ce travail d'affermissement des églises. Voilà. Alors, parce qu'on a encore un peu de temps pour quelques applications. Oui. Ah, est-ce que vous avez réfléchi à deux, trois choses? Ou même maintenant, dans ce qu'on a partagé.
Ce que je trouvais intéressant, vu du vécu qu'on a déjà pu avoir dans les églises, c'est qu'une divergence d'opinion, d'ordre spirituel, ou voilà, n'entraîne pas, peut très bien ne pas entraîner un conflit, une opposition, une séparation. Voilà. Et même comme tu l'as dit, finalement, où on reconnaît les compétences de l'autre et la justification de ce qu'il fait, finalement. Il y a un respect quelque part. C'est ce que je ressens un peu. Et encore plus avec les explications que tu as données. Puisqu'après, ils vont recommencer à
en tout cas, ensemble et tout. Pour rebondir sur ce que tu dis, on peut dire que les divergences sont naturelles.
Mais oui,
elles sont humaines. Oui, voilà, elles sont humaines. C'est un peu ce que le texte dit, finalement. Et elles sont inévitables, surtout. On ne peut pas imaginer vivre en église et que tout soit plat. D'ailleurs, ce serait mort de chiant. Hein, tu vois, y a rien qui se passe, quoi. Tout le monde est d'accord. C'est formidable. Non, non, c'est autre et bien différent, je pense, que le fait qu'on est, ne serait-ce que le fait qu'on est homme-femme. Est-ce qu'on peut avoir la même vision d'une problématique, par exemple, relationnelle? Moi, je ne crois pas. Je crois que les femmes réagissent bien mieux que les hommes à ces problématiques relationnelles, et que les hommes montent plutôt dans les tours, dans le côté égo, finalement, pour défendre leur position, leurs idées, leurs intérêts, leur pouvoir, etc., etc. Donc je pense qu'on est différents.
Quand j'habitais à Vaud, près de Namur, c'était André Winnet qui était le prêtre de la messe du dimanche, et dans une homélie, il avait dit, avec raison, en fait, qu'il y avait beaucoup plus de différence entre un homme et une femme belge que entre entre deux hommes, un européen, un africain ou un asiatique.
Oui, il y a des traits communs, même transculturels, je pense qu'il y a des traits communs. Ok, donc ça me paraît clair. Je dirais que par rapport aux divergences, pour en finir avec, c'est qu'il faut apprendre à les gérer de manière respectueuse. Voilà, pour soi, pour l'autre, et aussi pour la cause de l'Évangile. C'est rien de pire que de tomber dans le conflit, finalement, qui est un contre-témoignage incroyable, quoi. Donc j'ai presque envie de dire en rigolant, mieux vaut une bonne séparation qu'une collaboration qui évolue dans la souffrance des blessures infligées. Voilà. Et je crois qu'ils ont eu raison, nos amis Barnabas et Paul. Séparons-nous, mais œuvrons pour Dieu. Point à la ligne, puisqu'on se connaît et on sait que chacun a sa valeur.
Et
je me disais aussi, il y a, oui, le respect de l'opinion de l'autre et aussi le fait de ne pas forcément se laisser influencer et se plier à l'opinion de l'autre qui on peut considérer qu'a plus d'expérience ou quoi. Je crois que ça arrive aussi parfois, ça, que finalement on est convaincu d'une chose et puis on se plie parce que les instances de l'Église ne sont pas d'accord. Je crois quand même qu'il y a souvent, comme on l'a déjà dit, une volonté d'uniformisation.
Oui, évidemment, le fait que Barnabas est quand même parti avec Jean-Marc. Jean-Marc a eu l'expérience et après a pu collaborer avec
Paul.
Oui,
voilà,
qu'il aurait été fait de le faire.
Tout à fait. C'est pas que Paul se soit trompé, je pense que l'analyse de Paul était juste au moment où ça se passe, mais que ce que Paul n'avait pas songé, c'est qu'en ne donnant pas sa chance à Marc, on l'empêchait d'évoluer vers le meilleur. Et voilà que Barnabas, lui, croit l'inverse. Il dit, ben non, justement, travaillons, œuvrons, et il deviendra quelqu'un de tout à fait capable et de fiable. Et voilà que l'histoire nous raconte que Paul l'a reconnu, ça, finalement. Oui, ça, c'est vraiment très intéressant, quoi. Bon, j'ai presque envie de dire en rigolant, mais finalement, la divergence de point de vue dans le champ du spirituel, ça peut conduire au meilleur. La preuve ici, l'Europe va être touchée à cause, quelque part, de ce différent, de cette divergence de point de vue de départ qui se passe à Antioche, dans la meilleure des églises, quoi, tu vois, entre deux grands amis. Et puis voilà où ça conduira. Donc il n'y a pas de quoi pleurer, quelque part. Pour le fun, j'ai envie de dire peut-être que la réforme protestante, même si ça n'a pas été très bien vécu par tout le monde, ça a aussi quelque part été un coup de pouce pour le christianisme, dans le sens que voilà, on se retrouve entre frères, alors pendant un temps des frères séparés, ça c'est clair, parce que de nouveau, ben, l'ego et tout ça fait que on voulait pas trop se parler, on voulait pas communiquer, on voulait surtout pas trouver un point d'accord. Mais avec les millénaires, il se trouve que ces frères se parlent. Et que je crois qu'on pourrait même...
Oui, enfin... Siècles, oui, plutôt.
Oui,
il y a que deux millénaires.
Un petit mille ans, je dirais. Allez. D'accord. Qu'est-ce que je disais avec ça?
Les frères se parlent.
Oui, les frères se parlent, mais non seulement ça, je pense qu'il y a eu une stimulation réciproque. Je pense par exemple aux missions. Les missions sont nées, disons plutôt 18e, 19e siècle, et je pense que les missions protestantes qui ont essaimé dans le monde entier ont permis une visée missionnaire encore plus large de toutes les obédiences, y compris catholiques. Donc voilà. Les orthodoxes un peu sont restés un peu tranquilles, par contre, dans leur coin, entre Chypre, la Grèce, etc. N'ont pas trop bougé. Mais oui, mais catholiques et protestants ont bougé dans le monde entier, finalement, pour la cause de l'Évangile. Donc, ça, c'est quand même pas rien, quelque part. Qu'est-ce que je voulais... Oui, c'est bien. Puis, je pense qu'on pourrait tirer aussi quelques leçons sur la transmission spirituelle dans ces textes. C'est-à-dire la place importante de l'héritage spirituel, par exemple en tant que parent, pourquoi ne pas éduquer ses enfants dans le respect des Écritures, dans le cheminement vers la foi, etc. Je pense que ça c'est important, que c'est un devoir pour des parents chrétiens. Parce que j'ai même envie de dire, tout enfant rebelle, même rebelle, on pourrait insister là-dessus, mais il en retiendra l'essentiel. Et cet essentiel, ça mène au salut. Alors maintenant, il y a des rebelles qui restent rebelles. Mais voilà, je pense que quand même l'éducation, ça joue énormément dans l'avenir d'un enfant. Voilà. Et puis on pourrait aussi insister sur la notion de compromis. Dire, voilà, mais pourquoi on ne favorise pas le compromis en Église? Pourquoi préférer la contestation, la rébellion, le conflit, plutôt que de dialoguer, de chercher le meilleur des compromis, chercher l'apaisement, chercher à ne pas choquer inutilement, etc., et permettre finalement de vivre malgré nos différences, malgré nos divergences. Je pense à l'unité, parce que quand la Bible parle du corps de Christ chez Paul, ça parle de l'unité de tous ceux qui croient en Jésus. Et j'allais dire, malgré les fractures visibles. C'est-à-dire que c'est clair que certains peuvent mettre le doigt sur telle problématique chez les catholiques, telle problématique chez les protestants, etc. Mais quelque part, il y a une unité invisible qui est celle que Dieu veut, que Dieu attend de nous. Quelque chose qui soit plus grand que les apparences de séparation, de divergence. Voilà. Bon, je pense que dans cette péricope, beaucoup de choses qu'on pourrait dire en termes d'application concrète dans notre quotidien. Quoi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Après, la prochaine fois, ben, on atteindra l'Europe. Non, je rigole. Oui, parce que j'ai choisi de parler, enfin, qu'on puisse étudier dans le chapitre 16, les versets 6 à 15, qui va nous conduire dans la première ville européenne, à Philippe exactement. Ah, oui. Voilà. Bon, c'est pas très long. Au début, je me disais, oh, je vais faire que les versets suivants, mais je me suis rendu compte que ça serait beaucoup trop court, pas assez riche, donc autant faire jusqu'au verset 15, où on les voit cheminer vers l'Europe, hein. Mais attention, ils vont y cheminer difficilement. Voilà. Et puis ils vont arriver à Philippe, et là ils sont en Europe. Sans passer par le Bosphore. Donc ils n'ont pas pris la route terrestre qui permet de traverser juste la petite bande d'eau entre les deux continents. Ils vont prendre le bateau depuis Troas pour aller vers le port qui n'est pas Philippe, parce que Philippe c'est une ville qui n'est pas côtière. Mmh. Voilà. Exactement. Donc voilà, j'essaye de m'habituer, je dis ça comme ça, à préparer le questionnaire le lendemain, tant que tout ça est encore bien frais dans mon esprit. Et alors je vous l'envoie, ce qui fait qu'on l'a quand même pas mal de jours avant.